cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 15 février 95.
Doit-on faire la distinction entre intention et envie? Je comprends. Le glissement permet entre l'un et l'autre, mais ne conduit-il pas à une sécheresse du cœur quand il y a confusion entre intention, acte et intention intellectuelle, rêve? Ne peut-on pas juger une personne? Oui, on ne peut pas juger une personne, mais les actes, en est-il de même? L'être en acte et l'être en puissance et l'acte. Ça, on verra la question de l'opération vitale, donc je laisse tomber. L'envie est passionnelle. J'ai envie du chocolat pendant le carême parce que j'ai pris la résolution, l'intention de ne pas prendre du chocolat pendant le carême. C'est une très bonne intention. Pendant le carême, ne prenez pas de chocolat. Alors vous connaîtrez l'envie. Et vous verrez que l'envie va contre l'intention. Constamment, c'est comme ça. L'envie porte sur des biens particuliers. L'intention porte sur une fin. Alors évidemment, vous avez peut-être une conscience beaucoup plus aiguë et affective de l'envie, si vous êtes encore très dans les passions. Si vous avez une vie qui devient de plus en plus spirituelle, c'est l'intention qui domine. Et l'intention ne peut pas assécher le cœur, puisque l'intention provient d'un amour. La véritable intention. J'aime ce bien spirituel. Le bien spirituel, il est au-delà des passions. Mais les passions, c'est une affectivité moindre que l'affectivité spirituelle. Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas proprement humain. Rappelez cette phrase d'Aristote qui est tellement forte. Qu'un païen ait dit ça, hein? Alors un chrétien, qu'est-ce qu'il dit? La passion, elle est au niveau animal en nous. C'est très grand, c'est pas l'animal, c'est beau. Intention, acte volontaire, spirituel, ça relève de la volonté. C'est le bien spirituel que je cherche. Et si je suis chrétien, c'est la volonté du Père que je cherche. Alors, si l'intention a pris possession de toute votre vie, j'ai aussi envie de faire la volonté du Père. Mais ça met du temps. Il faut bien distinguer l'envie provient, selon le langage habituel. Le chien a envie d'un morceau de sucre. Quand vous lui présentez, il se redresse sur ses deux pattes de derrière. Ouh là 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 là. Ça, c'est l'image de l'envie. Il est tout tendu vers vous. Et puis si vous levez le morceau de sucre successivement pour qu'il n'attrape pas du premier coup, puis au bout d'un certain temps, il vous possède. Et il possède le sucre avant de vous posséder. L'envie, c'est ça. Passionnellement. L'intention, chose intérieure. Oui, vous arrivez petit à petit à distinguer les passions, l'amour passionnel et l'amour spirituel. C'est pour ça qu'Aristote dit que les jeunes, c'est très différent. dire spirituel, religieux égal spirituel, dans la lumière de l'adoration, parce que je vois que je suis une créature de Dieu, et Dieu m'a créé âme et corps. Il a créé mon âme dans mon corps. Puisqu'il a créé mon âme dans mon corps a quelque chose de spirituel. Ça, c'est le regard religieux, humain, parfaitement humain, sur le corps. Tant que je n'ai pas ce regard sur mon corps, je n'ai pas un regard humain sur mon corps. J'ai peut-être un regard scientifique, j'ai peut-être un regard sensible, mais je n'ai pas un regard humain. Le regard humain sur mon corps, c'est de le regarder dans la lumière même de l'adoration. Puisque je suis une créature de Dieu, et mon corps est aimé de Dieu. Puisque mon corps est aimé de Dieu, et qu'il vient de Dieu, je le respecte. L'Écriture montre que Dieu a formé mon corps. Que Dieu a formé mon corps comme un potier forme un vase d'argile. C'est une comparaison merveilleuse pour nous faire comprendre l'amour de Dieu et la présence de l'acte de Dieu comme créateur pour former mon corps. Dieu formant mon corps et en l'aimant me demande d'avoir sur mon corps un regard religieux en le respectant, c'est-à-dire en essayant de comprendre progressivement ce pourquoi mon corps est fait. C'est ça le regard humain de mon corps, c'est de finaliser mon corps, c'est de regarder dans la lumière de l'adoration, qui est l'acte humain, spirituel. Je remonte à la source. Par l'adoration, je remonte à la source. Et je me mets dans la lumière de la source. La touche divine de l'adoration. C'est merveilleux que tout est imprégné du regard de Dieu. Et tout étant imprégné du regard de Dieu, l'opacité de mon corps disparaît dans la lumière de Dieu. Pourquoi il reste toujours opaque? Mais il disparaît dans la lumière de l'adoration. Et c'est ça qui me donne une très grande force pour dominer les instincts. Parce que je m'aperçois vite que je suis fragile du côté des instincts, l'instinct de boire et de manger quand on a faim. On se précipite sur la nourriture, comme le petit chien. Et on fait agiter sa langue dans la soupe. On se précipite, alors qu'il faut que petit à petit, manger et boire soit un acte humain, c'est-à-dire un acte finalisé. Finalisé et assumé par le point de vue religieux, par l'adoration. Je bois et je mange par respect pour mon corps, parce que mon corps n'a besoin pour être ce qu'il doit être. Je n'ai pas le droit d'abîmer mon corps, de l'abîmer, sauf si Dieu réclame de moi un jeûne intempestif. Et alors à ce moment-là, je mets toutes mes forces pour ça. Mais attention, attention. Il ne faut pas le faire. Pour rien. Dans certaines circonstances limites, on comprend. La prière implique le jeûne. Jeûner et prier. Bien évident qu'il y a un regard religieux sur le corps avoir une certaine finalité qui n'est pas une vraie finalité. Certaines finalités à ce niveau-là. Et donc, avoir des mœurs spartiates pour la nourriture, le vin et le boire, en vue du combat, en vue d'être un athlète, en vue de se dominer parfaitement. Quand on le fait dans la lumière de l'adoration, c'est tout autre. Notre corps est ancré par Dieu, doit être aimé dans tout ce qu'il est. Et on ne doit pas exagérer les soins du corps. On doit les rendre nets, précis, en vue de glorifier Dieu. Et en vue aussi de la vie commune. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui ne se lave jamais, or se laver, c'est quand même entretenir son corps. On disait ça de Plotin, paraît-il. Il vivait dans un taudis qui sentait extrêmement mauvais. Et malgré ça, on a gardé les écrits de Plotin. Bon, alors ça fait partie d'une hygiène. Et ça relève de la vertu de tempérance. Obéir au médecin fait partie de la vertu de tempérance. Quand il vous dit attention, vous êtes sur une plante glissante. On pourra plus vous rattraper dès que vous aurez pris un seuil. On sait ça. On vous rattrapera très difficilement. Ça mettra très longtemps et vous pouvez encore le faire maintenant. Faites-le. Ça, c'est mesuré par la prudence et dans la lumière de l'adoration. C'est la même chose pour la vertu de chasteté, qui est une domination sur les instincts sexuels. Pour Aristote, et je crois que cette distinction est juste, mais tout a été brouillé avec Freud. Alors c'est un terrain sur lequel il est très, très important de regarder la vision freudienne du corps et la vision éthique, religieuse du corps. Ce serait très intéressant à bien noter ça. Freud a une vision du corps qui est commandée par l'instinct sexuel. Tout est vu dans cette lumière-là. Et depuis Freud, ça a fait beaucoup de petits-enfants. Et c'est arrivé à se vulgariser et ça devient commun. Je connaissais, elle est morte maintenant, une freudienne. Plus intelligente des freudiennes que je rencontrais. Elle était médecin psychanalyste. Elle croyait sur les bords. Et comme il y avait une amie commune, on a pu dialoguer ensemble progressivement pour ramener à une vision beaucoup plus profonde et saine. J'aurais voulu qu'elle-même puisse écrire sur les limites du freudisme en tant que psychanalyste. Elle n'a pas eu le temps de le faire. Elle est morte avant. Parce que je crois que ce serait un freudien qui ait pratiqué vraiment la psychanalyse freudienne qui pourrait voir les limites. Et ce qui est net, c'est que Freud a une vision de l'homme qui est commandée uniquement par le sexe. Ça, c'est sa vision. Il n'y a que ça. Et par le fait même, la distinction entre le point de vue de l'aliment, qui est le bien sensible de l'individu, et le point de vue sexuel, qui est l'instinct pour la génération, la procréation. Et donc, comment au niveau de la philosophie de la vie. Et on la comprend au niveau éthique. Vous voyez qu'il y a deux éthiques très différentes. L'éthique freudienne est très très particulière. Il y a une éthique freudienne. Et puis il y a l'éthique réaliste que nous essayons de préciser pour comprendre qu'est-ce que représente exactement la vertu de chasteté. Qu'on doit essayer de comprendre, il faut la comprendre. Et la vertu de chasteté, c'est justement de faire que tout l'instinct sexuel soit ordonné à sa vraie finalité. Ordonné à sa vraie finalité. Et que cet instinct n'est pas le même.
En lui quelque chose qui
la connaissance, l'éveil de la connaissance. Et l'éveil de la connaissance est plus fort que l'instinct du boire et du manger. Alors, c'est la même chose, d'une façon beaucoup plus profonde. Parce qu'il n'y a pas seulement le temps.